Chapitre 76. 27 décembre 2017. Romain referme son livre. Il ne parvient pas à se concentrer. Il pense à elle. À elle au pluriel, plus exactement. Le bien et le mal se mélangent dans son esprit. Nina était presque froide hier au téléphone. Pourquoi certaines personnes que l'on vient tout juste de rencontrer laissent à penser qu'on les a devinées immédiatement? Elle lui a dit être dans une pension en Italie avec ses deux amis, tous les trois dans la même chambre, comme lorsqu'ils étaient enfants, qu'elle partageait son lit avec Étienne. La voix de Nina était couverte par le son d'une télévision. Il a dû lui faire répéter plusieurs fois quelques phrases, ce qui a paru la contrarier, comme ces jeunes élèves peuvent s'agacer contre un vieux professeur un peu dur d'oreille. Égoïstement, Romain espère que Nina rentrera vite, que ce voyage ne va pas s'éterniser. Juste avant de raccrocher, elle a soufflé.
Au fait, tu ne m'as jamais dit pourquoi tu avais été mutée de Marne-la-Coquette à la Comelle.
Une fois de plus, Romain n'a pas compris ou voulu entendre. Il l'a fait répéter. Nina a parlé plus fort.
Pourquoi tu as été mutée à la Comelle? Pourquoi tu es partie de Marne?
Cette fois, il a parfaitement compris la question. D'ailleurs, était-ce une question ou une insinuation? Ces mots l'ont tellement surpris qu'il n'a pas su quoi répondre. Il y a eu un très long blanc, une envie de lui raccrocher au nez. Il s'est senti poisseux. Rien n'est pire pour un homme que d'être condamné avant même d'être jugé. De sentir que les autres ne vous regarderont plus jamais comme avant. Une parano qu'il traîne comme une chimère, qui lui colle à la peau. Après un long moment, il a répondu « Je ne t'ai rien dit parce que je n'ai pas du tout envie d'en parler. » À son tour, il est devenu distant avec elle. Puis ils ont échangé quelques banalités sur le temps et la voiture qui ne consommait pas beaucoup d'essence, et Nina a raccroché. Romain a aussitôt regretté. Il aurait dû la rassurer. Ne pas répondre à la bêtise par la bêtise. Parce que pour la première fois, Nina s'était montrée idiote. Comment pouvait-elle faire partie des autres? Non, bien sûr qu'elle n'en faisait pas partie. Il l'a aussitôt rappelé. Elle n'avait pas bougé. Regardant ses tennis délacés sur ce tapis moche aux couleurs délavées. Se demandant comment elle avait pu être aussi conne avec Romain. Quand le téléphone a sonné, elle a su que c'était lui. Su ou espéré. Elle a décroché dès la première sonnerie. Romain n'oubliera jamais son départ de Marne, mais il y pense moins. Hier, la question de Nina l'a replongé dans ce qu'il a vécu comme un grand malheur. Encore aujourd'hui, il ignore comment il s'en est relevé. Elle s'appelait Rebecca, comme le personnage du roman de Daphné du Maurier. Était-ce prémonitoire? Rebecca Lalo. Ses amis la surnommaient Becca. Romain la connaissait comme tous les élèves de l'établissement qu'il dirigeait. Ils discutaient de l'avenir, des choix à faire et des résultats de chacun d'entre eux au conseil de classe trimestriel avec les professeurs. Quand un élève entrait en sixième, Romain avait besoin de quelques mois pour l'identifier. À la fin de l'année, il les connaissait tous, et de la cinquième à la troisième, les appelait par leur prénom. Romain n'était pas un proviseur sévère, mais il devait se faire respecter. De par son jeune âge, il ne pouvait décemment pas laisser croire à quiconque qu'il était un copain. Il lui était arrivé au cours de sa vie professionnelle de s'emporter contre un élève, de se laisser submerger par la colère à cause d'un comportement qu'il jugeait déplacé. On savait qu'il pouvait se fâcher, élever la voix et taper du poing sur la table pour se faire entendre. Rebecca Lalo était en quatrième. Au cours du troisième trimestre 2014, le 8 avril précisément, elle fit irruption dans son bureau. Rares étaient les élèves qui venaient le voir d'eux-mêmes. Ils ne s'y rendaient que lorsqu'ils étaient convoqués avec leurs parents ou un professeur. Pour les demandes courantes, les collégiens s'adressaient aux conseillers principaux d'éducation, mais jamais aux proviseurs. À peine entrés, Rebecca lui balança. « Vous avez couché avec ma mère le week-end dernier? La jolie blonde bien gaulée que vous avez emballée au Dickens? C'est ma rhum. Je vous ai vue. Elle a passé la nuit chez vous. » C'était la première fois que Romain était soufflé par une élève, incapable de lui répondre quoi que ce soit. « Si vous me donnez pas 1 000 euros, je vais le dire à tout le monde. » Cette dernière phrase le laissa encore plus abasourdi. Puis il éclata de rire, un rire sarcastique. « Mais dites-moi que je rêve !»« Non. » Vous êtes même en plein cauchemar. Ma mère est mariée. Si j'en parle à mon père, en plus de votre réputation, vous êtes un homme mort. » Romain ne s'était jamais laissé manipuler ni intimider. Ses dernières paroles l'avaient revigoré. « Ne vous en déplaise, mademoiselle Lalo, je fais ce que je veux de ma vie privée. Et je vais oublier cette conversation, oublier que vous venez de tenter de me faire chanter. Vous allez ressortir de mon bureau. Nous ne nous sommes jamais parlé. Nous ne nous sommes jamais vus. Et il ne s'est rien passé. Entendu ? Et vous avez intérêt à m'obéir. C'est-à-dire ? Lui demanda-t-elle effrontément, sans chercher à dissimuler un sourire provocateur. Pour être clair, ce qui vient de se passer entre ces murs n'est jamais arrivé. Et ce, pour votre bien. Sinon... Sinon, je ferai le nécessaire pour que vous la fermiez une bonne fois pour toutes. » Rebecca se mit à pleurnicher. Des larmes de crocodile qui agacèrent Romain Grimaldi au plus haut point. De toute sa carrière, c'était la première fois qu'il avait envie de gifler une élève. « Et si je parle ?» renifla-t-elle. « Qu'est-ce qui va se passer ?»« Ce sera votre parole contre la mienne. Et je vous ferai virer de cet établissement pour insubordination et chantage. » Ses larmes redoublèrent. « Non, monsieur Grimaldi !» gémit-elle. « Je vous en supplie !»« Arrêtez votre cinéma, mademoiselle Lalo, ou je vais vraiment me fâcher. Tout cela va trop loin. Je vous demande de quitter mon bureau sur le champ. » Elle le fixa, suppliante. « Et si je ne dis rien à personne, vous me laisserez tranquille ? Je pourrai finir mon année ?»«
Oui, évidemment. »«
Vous me le promettez ?»«
Oui. » »«
Maintenant, disparaissez. » Vous ne direz jamais ce qui s'est passé ? Sortez d'ici ! À ce moment, elle se jeta sur lui et l'embrassa à pleine bouche. Romain la saisit par les épaules et la repoussa. Rebecca se laissa tomber et sa tête heurta le bureau. Elle se releva tout de suite. De la morve et du sang mélangé lui coulaient du nez.
« Nom de Dieu ! » articula-t-il.
« Au revoir, monsieur. Je ne dirai rien. » Romain voulut la suivre pour l'emmener à l'infirmerie, avant de se raviser et de se rasseoir, sonné. Paniqué, le sous-directeur entra à son tour et lui demanda ce qui s'était passé. Il venait de voir une élève sortir du bureau en larmes et en sang. « Je préfère ne pas en parler, » lui répondit sèchement Romain. L'autre n'insista pas, tout en posant sur lui un regard suspicieux, le premier d'une longue série. La mère de Rebecca Lalo. Romain se souvenait parfaitement d'elle. Elle s'appelait Sylvie, mais tout le monde m'appelle Syl. La rencontre au Dickens, la nuit qui avait suivi cette soirée bien arrosée. Comment aurait-il pu savoir qu'il s'agissait de la mère d'une élève ? Il retrouva son numéro dans son portable. Prénom, Syl. Nom, Bière. Il l'appela pour tout lui raconter. Affolée, Sylvie Lalo lui fit promettre de ne jamais dire qu'ils avaient passé la nuit ensemble. Romain promit. Le lendemain, il était convoqué chez les flics et la descente aux enfers commençait. Enregistrement fourni aux autorités.
Si j'en parle à mon père, en plus de votre réputation, vous êtes un homme mort. Ne vous en déplaise, mademoiselle Lalo, je fais ce que je veux de ma vie privée. Et je vais oublier cette conversation, oublier que vous venez de tenter de me faire chanter. Vous allez ressortir de mon bureau. Nous ne nous sommes jamais parlé. Nous ne nous sommes jamais vus. Et il ne s'est rien passé. Entendu ? Et vous avez intérêt à m'obéir. C'est-à-dire ? Pour être clair, ce qui vient de se passer entre ces murs n'est jamais arrivé. Et ce, pour votre bien. Sinon, je ferai le nécessaire pour que vous la fermiez une bonne fois pour toutes. »
Pleurs de Rebecca Lalo.
« Et si je parle ? Qu'est-ce qui va se passer ? Ce sera votre parole contre la mienne. Et je vous ferai virer de cet établissement pour insubordination et chantage. »
Pleurs de Rebecca Lalo.
« Non, monsieur Grimaldi, je vous en supplie. « Arrêtez votre cinéma, mademoiselle Lalo, ou je vais vraiment me fâcher. Tout cela va trop loin. Je vous demande de quitter mon bureau sur le champ. Et si je ne dis rien à personne, vous me laisserez tranquille ? Je pourrai finir mon année ? Oui, évidemment. Vous me le promettez ? Oui. Maintenant, disparaissez. Vous ne direz jamais ce qui s'est passé ? Sortez d'ici !»
Bruit de lutte.
« Nom de Dieu ! Au revoir, monsieur. Je ne dirai rien. »
L'adolescente avait tout enregistré avec son smartphone, sauf le début de leur conversation. Présentant un traumatisme crânien, elle avait raconté à la police que son proviseur lui avait fait des avances et avait eu des gestes déplacés à son encontre. qu'elle avait menacé de tout révéler et qu'il s'en était pris violemment à elle en la frappant, qu'il lui faisait si peur qu'elle l'avait enregistré au cas où leur entrevue dégénérerait. Romain se laissa accuser sans rien nier. Tout cela était sa faute. Il aurait dû rester calme. Il aurait dû l'emmener à l'infirmerie. Il aurait dû se souvenir qu'elle avait 14 ans. Il aurait dû savoir qu'elle était fragile. Il aurait dû. Il n'attendit pas d'être mis à pied pour envoyer sa lettre de démission au recteur. Il resta des semaines entières enfermé chez lui, volet clos, se faisant livrer ses repas à domicile, ne répondant plus à personne au téléphone. Jusqu'au jour où, début juin, ses parents débarquèrent chez lui. Ils commencèrent par ouvrir les fenêtres. « Fallait pas faire 20 heures d'avion pour aérer mon appart », leur dit-il, en larmes. Il apprit que Rebecca Lalo était revenue sur ses déclarations, de sorte qu'il avait été mis hors de cause. Mais il était trop tard. Sa réputation à Marne-la-Coquette était finie. Il ne pourrait jamais remettre les pieds au collège. Déjà qu'il ne parvenait plus à acheter une baguette de pain sans rougir ni trembler. Il avait le sentiment que tout le monde le regardait, se méfiait de lui. Malgré ce non-lieu qui le réhabilitait, il se sentait rongé jusque dans sa chair par la honte. Un fléau qui n'offre que l'envie de s'éteindre et disparaître. Que l'adolescente soit revenue sur ses déclarations l'accablait au lieu de le soulager. Décidément, elle était bien plus forte que lui, et lui donnait une bonne leçon. Il s'enfonça de plus belle, son bras dans une torpeur alarmante, ne sortant de son lit que pour aller aux toilettes. Encouragé par d'anciens collègues, il finit par accepter d'être hospitalisé, des perfusions d'antidépresseurs dans les bras. Une professeure lui sauva la vie, une psychiatre qui le fit parler. Pourquoi culpabilisait-il au point de vouloir mourir ? Encore aujourd'hui, Romain est persuadé que tout était sa faute, qu'il n'aurait jamais dû réagir ainsi face à une enfant de 14 ans. Malgré tout, il a repris goût à la vie, réappris à se nourrir, marcher, aimer l'odeur du thé et du café, déguster une pâtisserie, faire du vélo, ses courses, écouter de la musique, avaler du pop-corn dans une salle de cinéma, flâner dans une librairie. Il a longtemps hésité à reprendre le chemin de l'école, affronter à nouveau un quotidien de proviseur, regarder des enfants dans les yeux sans penser à ceux de Rebecca sur lui lorsqu'elle s'était relevée, du sang sur le visage. Il avait été un mauvais directeur, un jeune effronté, quelqu'un qui pensait guider et aider des jeunes avec des grandes théories humanistes. Et lorsqu'il s'était retrouvé dans une position délicate, il avait chuté. Un nouvel établissement allait ouvrir ses portes en Bourgogne. On recrutait une équipe. Un collègue et ami le poussa à postuler. « Tu es fait pour ce métier, Romain. Vas-y, accepte, arrête d'avoir peur. » Romain a tout raconté à Nina au téléphone. Avant de raccrocher, elle lui a dit
« Merci de ta confiance. Merci de me dire la vérité. Merci d'être venu chercher Bob. »